le rendez-vous des champions. Alors aujourd'hui, nous sommes à notre culte de la semaine qui, dans les églises Vase d'honneur, est destiné à faire de nous des vainqueurs, des conquérants. Alléluia. Donc c'est un temps que nous mettons à part, que le Saint-Esprit nous donne pour nous équiper, pour manifester la vie glorieuse en Christ. Dis avec moi, je manifeste la vie glorieuse en Christ. Alléluia. Alors aujourd'hui, nous allons parler, j'ai de l'écho, nous allons parler d'un thème assez important et le Saint-Esprit, le Seigneur va nous conduire. Nous allons prendre nos Bibles, on va lire à partir du verset dans le livre de Proverbes. On va prendre le livre de Proverbes. Merci Seigneur pour ta présence. Proverbes chapitre 30. Proverbes chapitre 30. Et on va lire à partir du verset 24. La Bible dit ceci. Alors, la Bible dit, il y a quatre petits animaux sur la terre qui, pourtant, sont remplis de sagesse. Là, je lis la version Semeur, mais on va lire la version 8 secondes, qui est la plus courante. La Bible dit, il y a sur la terre quatre petits animaux et cependant des plus sages. Dis avec moi, quatre petits animaux. Et cependant des plus sages. Et la Bible va nous citer ces petits animaux. À partir du verset 25, il est dit, « Les fourmis, peuple sans force, préparent en été leur nourriture. Les damans, peuple sans puissance, placent leur demeure dans les rochers. Les sauterelles n'ont point de roi et elles sortent toutes par division. Le lézard saisit avec les mains et se trouve dans les palais des rois. » Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, depuis quelque temps, nous avons commencé par voir que la vie que le Seigneur nous a appelés à vivre, à partir du jour où nous avons rencontré le Seigneur Jésus-Christ, c'est une vie qui doit s'inscrire dans la ressemblance de Christ. Alléluia. La ressemblance de Christ. Et Christ, la Bible va décrire Christ comme étant le roi de gloire. Les Juifs vont l'appeler le Messie. Alléluia. Le Messie. Pourquoi? Parce que Dieu, la Bible dit que Dieu siège au ciel. Dieu siège, il gouverne le ciel, il gouverne tout ce qui existe, tout l'œuvre de ses mains. Mais à la terre, quand Dieu a voulu se révéler, il a voulu se révéler au travers de son Fils. Et c'est ainsi que le Fils de Dieu est venu. Et quand il est venu sur la terre, la première des choses qu'il a faites, c'est de commencer par révéler le territoire d'où il est venu. La Bible dit que Jésus, quand il a commencé son ministère, il a dit que le royaume des cieux est proche. Dis avec moi, le royaume des cieux. Alléluia. Alors, le royaume des cieux, lorsqu'il parle du royaume des cieux, c'est véritablement un endroit. Un territoire. Et c'est justement là, c'est là que Dieu est. Dieu est dans le royaume que la Bible appelle le royaume des cieux. Et ce royaume-là, il est venu se révéler aux hommes. Et c'est ainsi que les hommes n'ont pas pu reconnaître Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ n'était pas venu pour créer une religion, mais il est venu pour annoncer un gouvernement. De la même manière qu'on a les États-Unis, on a le Canada, on a la Belgique, on a l'Angleterre et on a toutes sortes de gouvernements. Il est venu, il a dit aux hommes qu'en réalité, Dieu que les hommes ne connaissent pas se trouve quelque part. Et ce Dieu qu'ils cherchent au travers de la religion se trouve dans le royaume des cieux. Alléluia. Donc, il se trouve dans le royaume des cieux. Maintenant, lui, en tant que fils de Dieu, il est roi dans ce royaume. Amen. C'est cela. En tant que roi, il est venu sur la terre. Et la raison pour laquelle Jésus-Christ a été crucifié à la croix, ce n'est pas parce qu'il était, il disait qu'il devait être un leader du christianisme. Non. Si vous étudiez les Écritures, vous allez dans les évangiles, dans les quatre évangiles sans exception, la Bible dit qu'au moment de le crucifier, ils ont porté une accusation sur la personne de Jésus. Ils l'ont accusé d'avoir dit qu'il était le roi des Juifs. Donc, ce n'était pas un leader religieux. Ils ont entendu le message de Jésus et Jésus disait qu'il était roi. Donc, à ce moment, César, qui était à la tête de l'Empire romain, il a pris peur. Les gens qui étaient autour de César, ou même qui étaient en Israël, qui étaient les gouvernants d'Israël, ils ont pris peur. Pourquoi? Pas parce qu'ils voulaient créer une religion, non. Parce qu'il a dit qu'il était roi. Donc, ils savaient que quand on dit qu'il y a un royaume qui vient, ça signifie que le royaume présent va être mis en difficulté. Amen. Donc, la raison pour laquelle ils ont crucifié Jésus, c'est parce que Jésus est roi. Et quand on parle de roi, c'est comme aujourd'hui, on n'a plus des rois comme autour de nous. On a des premiers ministres, on a des présidents. Donc, c'est des gens qui ont de l'autorité. Dis avec moi, de l'autorité. Alléluia. Amen, amen. Donc, cette royauté que Jésus-Christ a, c'est cette même royauté-là qu'il a donnée à tous ceux qui croient en lui. La Bible dit que Dieu a fait de nous, à partir du moment où nous recevons Jésus-Christ dans notre vie, Dieu fait de nous des rois. Dis avec moi, Dieu a fait de moi un roi. Donc, il fait de toi un roi, mais pas un roi sur la terre en même temps, parce qu'en ce moment, le royaume des cieux n'est pas encore manifesté. Alléluia. Et ce roi que tu es, c'est un roi dans le royaume des cieux. Dis avec moi, un roi dans le royaume des cieux. Amen. Donc, dans le royaume des cieux, tu es roi. Et cette royauté que tu as reçue de Christ, c'est elle que tu dois manifester sur la terre. Dis avec moi, je manifeste la royauté. Et Jésus va t'enseigner comment manifester la royauté. Cette royauté, c'est une qualité de vie. C'est une domination sur les circonstances. C'est vivre la vie de Christ sur la terre. Et elle te donne d'être distingué. Elle te donne également de pouvoir briller aux yeux du monde, révéler la gloire de Dieu. Aujourd'hui, chaque fois que les gens ont besoin de solutions, ils vont faire appel à des personnes qui ont des solutions. On ne cherche pas des gens qui n'ont pas de solution. Chaque fois que les nations ont des problèmes, les nations vont faire appel à des gens qui ont des solutions. Alléluia. C'est ainsi que quand Dieu, qui est au ciel, qu'on ne voit pas, va se révéler au travers de ses enfants, au travers des chrétiens, on va dire assurément, votre Dieu, il est Dieu. Amen. C'est ainsi que dans la Bible, on va voir plusieurs personnes, comme le cas de Daniel qui était en Babylone, le cas de Joseph. Ce n'étaient pas des personnes religieuses. Ils n'avaient pas sur leur tête une religion. Ils étaient entrés dans un royaume où les hommes n'adoraient pas Dieu. C'était des incroyants. Et à cause du fait que ces personnes transportaient la vie de Dieu, transportaient les valeurs de Dieu, transportaient la puissance du royaume des cieux qui est invisible pour le moment, mais qui bientôt va se révéler à l'avènement du Christ. À cause de cette vie qu'ils avaient, les hommes sont arrivés à dire, effectivement, votre Dieu, on reconnaît que c'est lui qui est le Dieu dans le ciel et qui gouverne aussi sur la terre. Amen. Sans la manifestation de la royauté, les gens ne peuvent pas croire en un Dieu qui ne voit pas. Alléluia. Et c'est ça. Quand tu viens à Christ, tu dois reconnaître qui tu es, ce que Dieu a fait de toi. On va ouvrir nos Bibles dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5. 2 Corinthiens, chapitre 5. Et on va lire au verset 15. Ce que la Bible nous dit dans 2 Corinthiens, chapitre 5. à partir du verset 17. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » Dis avec moi, « Je suis une nouvelle créature. » Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Donc, la Bible révèle clairement ici que si tu as donné ta vie à Christ, si tu appartiens à Christ, tu es devenu une nouvelle créature. Cette créature que tu as devenue, elle est mystérieuse, elle est étrange. On ne la connaît pas encore. On ne peut pas la juger par les sens. Non, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Parce que la nouvelle créature que tu es devenue, elle est d'abord esprit. Alléluia. C'est ton esprit qui est devenu une nouvelle créature. La Bible dit, par exemple, Jésus dit, il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici les signes qui vont accompagner ceux qui auront donné leur vie à Jésus-Christ. Ceux qui vont appartenir à ce royaume céleste. La Bible dit, qu'en mon nom, ils feront quoi? Ils chasseront les esprits impurs. Ils feront quoi d'autre? Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront... Qu'est-ce qu'ils feront d'autre? S'ils boivent quelconque breuvage, cela ne leur fera point de mal. Ils parleront de nouvelles langues. Alléluia. Donc voici les caractéristiques de ce que la Bible va parler ici d'être des nouvelles créatures. Ce n'est pas tout le monde qui peut imposer les mains à un malade et le malade va être guéri. Ce n'est pas tout le monde s'il se retrouve à boire un poison, ce poison ne va rien lui faire. Donc, pour pouvoir rentrer dans les capacités de Christ, pour pouvoir recevoir, vivre la vie divine, la vie de Dieu, ce Dieu que les hommes ne voient pas, la première des choses à faire, c'est recevoir Jésus-Christ dans sa vie. Alléluia. C'est de ça qu'il parle. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Dis avec moi, je deviens une nouvelle créature. Et il dit, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Donc, c'est la nouvelle créature que tu es devenue, c'est elle qui doit manifester une vie que la Bible a appelée une vie royale. Amen. Mais la plupart du temps, nous sommes beaucoup conscients de notre corps, parce que notre corps n'a pas changé. Et le corps que tu as, ce corps peut tomber malade. Si tu tombes malade comme les gens qui n'ont pas reçu le Seigneur Jésus. Est-ce que vous savez que Jésus guérissait les malades lorsqu'il était sur la terre? Jésus, la Bible dit qu'il allait de lieu en lieu, il guérissait ceux qui étaient malades. Et la vie que Jésus a, à partir du moment où tu lui donnes ta vie, la Bible dit, dans le livre de Jean 14, Jean 15, il dit, si quelqu'un m'aime, il gardera mes commandements, il gardera ma parole. Et qu'est-ce que je vais faire à celui qui garde mes commandements, qui garde ma parole? Il dit, mon Père l'aimera et nous viendrons à lui. Nous ferons notre demeure chez lui. Alléluia. Donc, ça signifie qu'à partir du jour où tu as reçu Jésus, autrement dit, tu as accepté qu'il est le Christ, cette parole de foi, tu l'as acceptée dans ta vie, Jésus se présente à toi, lui et le Père. Et le Père dont il fait allusion, c'est le Saint-Esprit. Il dit, nous allons venir dans ta maison. Nous allons habiter avec toi. Et il vient résider en toi. Alléluia. Et la vie qu'il avait pour guérir les malades, pour chasser les esprits impurs, pour faire toutes sortes de choses, de prodiges, de miracles, cette vie-là, elle vient habiter en toi. Alléluia. Et c'est à partir de cette vie-là que tu dois vivre dorénavant. C'est cette vie-là que le monde doit voir. Si tu sors au dehors, tu vois quelqu'un qui ne se sent pas bien, demande-lui, est-ce que je peux prier pour vous? Alléluia. Est-ce que je peux prier pour vous? Et quelque chose va se passer. C'est qu'à partir du moment où tu imposes la main, ta main cesse d'être ta main. Alléluia. Parce qu'il y a la vie de Christ qui va couler au travers de tes mains. C'est cette vie-là qui fait la différence. Alléluia. Mais nous devons apprendre à vivre à partir de cette vie. Amen. Donc, de la même façon, si tu es chrétien, tu as donné ta vie à Christ et que tu vis encore avec juste la conscience de ton corps, il y a beaucoup de choses que Christ, qui est venu habiter en toi, a envie de faire ou peut faire pour toi, changer dans les événements de ta vie et qui ne vont pas se manifester. Alléluia. De la même manière, un chrétien qui tombe malade, la vie de Christ qui est à l'intérieur de toi, a la capacité de régénérer chaque cellule de ton corps, a la capacité de traiter avec n'importe quelle chose qui vient contre toi, parce que Christ est déjà en toi. Alléluia. Maintenant, la façon de pouvoir manifester cette vie-là, c'est une autre chose. Il faut que tu l'apprennes. Amen. Il faut que tu l'apprennes. Allons dans le livre de Romains chapitre 8, tu vas comprendre cela. Quand tu vas comprendre cette vie que tu as reçue, tu vas commencer par la mettre en œuvre, en application. Et c'est elle qui va faire la différence. Romains chapitre 8, on va lire à partir du verset 11. Qu'est-ce que la Bible va nous dire? Qu'est-ce que la Bible va nous révéler? Romains chapitre 8, on lit à partir du verset. On va lire à partir du verset 1. La Bible dit ceci. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Dis avec moi, il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Donc, il n'y a plus de condamnation. À partir du moment où tu donnes ta vie à Jésus, il n'y a plus de condamnation. La Bible dit, si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? C'est Dieu qui juge les hommes. C'est Dieu qui jugera les hommes à la fin des siècles. C'est Dieu qui va s'asseoir sur son trône et les hommes viendront répondre, que ce soit les grands, les petits, les riches, les pauvres. La Bible parle de cela dans le livre de Apocalypse. Tous les hommes, quel que soit ce qu'ils ont fait sur la terre, vont se présenter devant Dieu et Dieu va leur dire, rendez compte de ce que vous avez fait. Alléluia. Mais il dit, il y a une catégorie de personnes, eux, il n'y aura plus de condamnation pour eux. Alléluia. Il n'y a plus de condamnation. Pourquoi? Parce que Jésus a déjà pris la peine. Il a déjà porté sur son corps nos iniquités, nos manquements, nos faiblesses, nos péchés. Il a tout porté. Vous comprenez combien le sacrifice de Christ à la croix est puissant? C'est pour ça qu'il dit, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable. Nous allons revenir sur cet aspect-là. La Bible dit qu'il l'a envoyé dans une chair semblable à celle du péché afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Dis avec moi, je marche selon l'esprit et non selon la chair. Alléluia. C'est tout un processus. C'est quelque chose de nouveau. Les gens dans ce monde ne comprennent pas ce dont la Bible parle ici. Marcher selon l'esprit, c'est absolument quelque chose d'assez étrange pour les hommes qui sont dans la chair. Parce que pour marcher selon l'esprit, il faut avoir été initié à la connaissance de l'esprit de Dieu. Alléluia. Lorsque Jésus est venu sur la terre, la Bible dit qu'il marchait et les gens ne le comprenaient pas. Il était étrange. Son enseignement était étrange pour les gens. Tout ce qu'il faisait, il n'y a personne qui faisait ce que Jésus faisait. Pourquoi? Parce qu'il était le seul qui était capable de connaître la volonté de l'esprit de Dieu. Alléluia. Donc, nous aussi, à partir du jour où nous avons donné notre vie à Christ, il est impératif, il est important que nous apprenions ce que le Seigneur Jésus apprenait et connaissait du Saint-Esprit. Alléluia. Il est important que le Saint-Esprit t'enseigne à marcher dans les choses de Dieu. Et cet environnement que la Bible va appeler le royaume des cieux, c'est un environnement merveilleux. C'est tellement puissant. Si tu vis l'atmosphère de cet environnement-là, il n'y a pas de stress. Alléluia. Il n'y a pas de stress. No stress. Il n'y a pas de danger pour quelqu'un qui vit là. On va aller dans le livre de Hébreux. On va voir quelque chose. OK. Allons, on va revenir dans Romains chapitre 8. On va voir juste quelque chose. Hébreux chapitre 12. Je vais te parler rapidement de cet environnement où tu es déjà, où tu dois apprendre la vie de cet environnement pour vivre réellement la réalité de Jésus-Christ. Hébreux chapitre 12. On va lire à partir du verset 12. La Bible dit ceci. « Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis et suivez avec vos pieds droits, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu et à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. À ce qu'il n'y ait aucune, ni impudique, ni profane comme Ésaü qui, pour un mets, vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicitât avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. » Verset 18, voici ce qu'il dit, suivons très bien. Il dit, « Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni des retentissements de la trompette. » Tout ça, il fait allusion à l'expérience d'Israël dans le désert. Mais ce n'est pas ça le plus important. « Tel que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur fût adressé aucune de plus. » Car ils ne supportaient pas cette déclaration, si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et le spectacle était si terrible que Moïse dit, je suis épouvanté et tout en tremblant. Lisons le verset 22 ensemble. Qu'est-ce qui est écrit? De quoi? Non, tu n'as pas bien lu. Encore une fois. Donc, il dit quoi? Tu t'es approché de quoi? De la montagne de Dieu. De la cité du Dieu vivant. Dis avec moi la cité du Dieu vivant. Ok. Lisons la suite. La Jérusalem céleste. Des myriades qui forment quoi? Le cœur des anges. Ensuite. De l'assemblée des premiers-nés, dis avec moi les premiers-nés, inscrits dans les cieux. Ensuite, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à quoi? À la perfection. De qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Waouh! Powerful. Ce passage-là, il est puissant. Il dit, vous ne vous êtes pas approchés comme le peuple d'Israël d'une montagne et puis ils entendaient des voix simplement. Non, il dit, vous, au contraire, nous nous sommes approchés d'un endroit où il y a des myriades d'anges. Il y a les esprits des justes parvenus à la perfection. Et il y a Jésus qui est là. Il y a le sang de Jésus qui est là. Alléluia. Et tu es là en ce moment. Gloire à Jésus. On va retourner dans le livre de Romains chapitre 8. On va continuer notre lecture à partir du verset 5. Voici ce qu'il dit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, donc selon les sens, qui n'ont pas l'intelligence spirituelle, vont s'affectionner aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Donc, il y a des choses de l'esprit. Il y a des révélations de l'esprit. Il y a des paroles que l'esprit doit te donner. Il y a une préparation que l'esprit doit faire en toi. Il dit, il s'affectionne aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Quiconque n'apprend pas, n'est pas à l'école du Saint-Esprit, n'apprend pas les choses du Saint-Esprit, il va vivre les réalités des gens du monde. Il va vivre l'échec, Il va vivre les tourments, il va vivre toutes sortes de choses. Le malheur arrive sur les gens qui n'ont pas Jésus, qui n'ont pas Dieu. Le malheur va arriver sur cette personne. Et la personne ne saura pas quoi faire pour sortir de là. Parce qu'il vit selon la chair, il ne vit pas selon l'esprit. Et l'esprit a des voies, il a une façon de faire. Dans chaque situation, dans chaque cas, l'esprit de Dieu a une façon de procéder. Il a une façon de garder ton corps. Il a une façon de garder ton foyer. Il a une façon de garder tes finances. Il a une façon de protéger ta destinée sur la terre. Alléluia. C'est pour ça que la Bible dit, la loi de l'Éternel, elle est quoi? Elle est pure. La loi de l'Éternel, c'est-à-dire la parole de Dieu, elle éclaire nos yeux. Elle est une lumière à nos pas. Alléluia. La parole de Dieu. C'est ça, il dit. Il dit, et l'affection de la chair, c'est la mort. Ça va créer la mort. Tandis que ce que l'esprit affectionne, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Donc, vous voyez quelqu'un qui peut être chrétien, il est enfant de Dieu depuis des années, des mois, etc. Mais il va prendre du temps à mettre en pratique la parole de Dieu. C'est ça. Il dit la loi, ça dit la chair ne se soumet pas à ce que Dieu dit. Quand vous voyez quelqu'un qui lutte avec la parole de Dieu, c'est parce que la chair est aux commandes. Alléluia. Quand la chair prend les rênes de la vie de quelqu'un, elle va lui donner les résultats d'un païen, de quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, de quelqu'un qui n'a aucune alliance, aucune relation avec Dieu. Parce qu'elle va conduire la personne dans la désobéissance de la parole de Dieu. Or, la désobéissance de la parole de Dieu, la non-mise en pratique, parce qu'il y a une différence. Dans l'Ancien Testament, Dieu disait aux gens d'obéir la parole de Dieu, à la parole. Il dit, si vous ne mettez pas en pratique ces commandements, c'est ça qui fait votre vie. Dans le Nouveau Testament, nous n'obéissons pas à la parole de Dieu. Nous vivons la parole de Dieu. Alléluia. Obéir, c'est comme si elle est à l'extérieur de toi et on te demande de faire un effort. Dans le Nouveau Testament, nous, on la vit. Ça dit, dès que Dieu dit, voici comment tu dois faire, tu dis, ah, ça c'est ma vie, voici comment je dois faire. Tu vis la parole et la parole produit en toi le fruit. Alléluia. Donc, on ne se bat pas dans le Nouveau Testament pour obéir à la parole de Dieu, non. Tu deviens toi-même une Bible vivante. Tu marches et c'est la parole de Dieu qui marche. Dieu dit, aime ton prochain, pardonne, ne t'irrite pas facilement. Ne dis pas, ah, je vais essayer avec mes forces pour ne pas m'irriter. Non, à partir du moment où Dieu dit, ne t'irrite pas. Ne te mets pas en colère, ne garde pas la rancune, n'aie pas d'envie, n'aie pas de la jalousie vis-à-vis de ton prochain. Dès que tu entends cette parole-là, tu dis, voici comment moi je vis. Dans mon être, dans la personne que je suis, cette nouvelle créature que je suis, elle ne se met pas en colère facilement, elle est maître d'elle-même, elle est remplie d'amour, elle est remplie de paix, elle est remplie de sagesse, elle n'a pas de crainte en elle. Alléluia. Parce que c'est ça la nouvelle créature. Il dit, si quelqu'un en Christ, il est une nouvelle créature. Et cette nouvelle créature, la Bible va nous révéler ses caractéristiques dans le livre de Galates. Vous allez voir, la Bible dit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la patience, la paix, la joie, la bénignité, la fidélité, etc. Et il dit, la loi n'est pas contre ces choses. Quelqu'un qui vit avec cette nouvelle nature qu'il a reçue, cette personne-là, la Bible n'a pas besoin d'être ouverte, non. Quand tu vas dans la Bible, tu lis la parole de Dieu, ce que tu fais simplement, c'est d'éduquer ton mental. Tu éduques cette partie-là qui est la mémoire de l'homme. C'est cette partie-là que tu dois renouveler. C'est pour ça que Paul va parler de ça dans le livre de Romains chapitre 12. Et il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par quoi? Le renouvellement de votre intelligence. Ça signifie l'ensemble des informations qu'on a reçues depuis qu'on était petit et qui n'étaient pas conformes à la parole de Dieu, on les renouvelle. Alléluia. C'est ça qui est le problème de beaucoup de personnes. On a une façon de faire depuis qu'on était enfant, quand on n'avait pas de connaissance de Christ, On n'avait pas de connaissance des choses de Dieu. On n'avait pas de connaissance de comment Dieu fait, fonctionne, comment Dieu règle les problèmes. Et on continue par utiliser les mêmes affaires, le même disque. On utilise les mêmes procédés alors qu'on a maintenant une nouvelle vie. Alléluia. Gloire à Jésus. Dis avec moi, Seigneur, aide-moi à vivre selon l'Esprit. Amen. Et au verset 5, il dit ceci. Et ceux qui vivent selon... Bon, on a lu ça. Ensuite, au verset 8, il dit, « Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, dis avec moi, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. » Là, il commence par nous donner quoi? Une assurance. Il dit, « Nous avons reçu l'Esprit de Dieu. » Dis avec moi, « J'ai reçu l'Esprit de Dieu. » Alléluia, c'est ça. Et il dit, si l'Esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ, voilà, est en vous, dis avec moi, si Christ est en moi, c'est là maintenant que commence cette, la manifestation de la puissance de Christ. Ça, c'est quelqu'un qui a commencé par se rendre compte qu'il n'est plus la même personne. Regardez ce que Paul est en train de dire. Il nous conduit quelque part. Il dit, vous avez reçu une vie, c'est une nouvelle vie. Et il dit, cette vie-là, c'est la vie de Christ, la vie du Seigneur. Et il dit, si Christ est en vous, voici ce qu'il va faire. Et si vous, bon, voilà, on reprend même à partir du verset 13. Il dit, si vous vivez selon la chair, bon, verset 9. Il dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Et si du moins, l'Esprit de Dieu habite en vous. Première chose, avoir accepté Jésus. Deuxième chose, l'Esprit de Dieu habite en toi. Et ensuite, qu'est-ce qui va suivre? Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc, on quitte la catégorie de ceux qui n'appartiennent pas à Christ. Et si Christ est en vous, voici ce qu'il dit. Il dit, le corps, il est vrai, est mort. À cause de quoi? Du péché. Mais l'esprit est vie. Dis avec moi, l'esprit est vie. Ah, j'aime le mot vie. C'est le mot zoé en grec. Ce mot, il n'est utilisé que dans le Nouveau Testament. On ne le voit pas dans l'Ancien Testament. Alléluia. Et c'est un mot particulier. Parce que ici, ce mot signifie simplement, c'est le mot qui a été utilisé lorsque Jésus dit « Je suis la vie ». Zoé. Il dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis le chemin, je suis la vérité, et je suis la vie. Il n'a pas dit, je suis une vie. Il dit, je suis la vie. Ça signifie, ce qui donne, c'est la source même de toute création, de toute vie sur la terre. Il dit, je suis la vie. Alléluia. Et cette vie-là, c'est cette vie qui est dans le Père. C'est la vie qui a donné naissance à tout ce qui est sur la terre. Que ce soit la vie des animaux, la vie des hommes, la vie... Vous savez, même quand on va au niveau des animaux, il y a plusieurs sortes de vie. Les plantes ont une vie, mais la vie des plantes, ce n'est pas la vie des animaux. Alléluia. Les anges aussi ont une vie. Mais la vie des anges, ce n'est pas la vie des hommes, des êtres humains. On va appeler les hommes, par exemple, l'esprit de l'homme, l'esprit humain. Et les anges, c'est l'esprit des anges. Alléluia. C'est différentes catégories de vie. Mais Dieu nous a donné à nous, qui sommes chrétiens, d'avoir la vie qui est en lui. La même catégorie de vie que Dieu a sur son trône. Alléluia. Dis avec moi, cette vie en moi. Alléluia. Donc, vous comprenez maintenant pourquoi il dit, ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Parce que cette vie-là a la capacité de donner la vie à tout ce qui est mort. C'est de ça qu'il parle. Il dit, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Pourquoi il dit, est mort à cause du péché? À cause du fait que le péché que Adam a commis a introduit la mort sur la terre. Donc, nos corps mortels sont facilement attaqués par les bactéries. Quel que soit ce que tu fais, il y a la grippe ici, il y a le corona à gauche, il y a toutes sortes de virus qui pullulent. Voilà. Donc, tu n'as pas besoin de commettre un péché pour tomber malade. Alléluia. Je sais qu'il y a des gens qui, dès qu'ils tombent malade, ils disent, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Et ils commencent par regarder leur semaine et puis ils font un petit, voilà, non, non, non. Tu n'as pas besoin de, voilà, de commettre quelque chose de mauvais pour être malade, non. Si la maladie vient à ta porte, il faut savoir simplement que c'est juste lié à l'état de ton corps. Amen. Voilà. Mais au nom de Jésus, aucune maladie n'arrivera dans ton corps. Alléluia. Tu dis non au corona. Tu restes dehors. Alléluia. Voilà. C'est ça. Il dit, et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Donc, la Bible dit que Jésus a été ressuscité. Si son esprit habite en nous. Dis avec moi, si son esprit habite en moi, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Lisons la suite. D'accord. Il dit, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi, quoi? La vie à vos corps mortels. Par qui? Qui habite où? Alléluia. Donc, la présence de l'Esprit est la clé. La présence du Saint-Esprit est la clé. Si tu as le Saint-Esprit en toi, ça signifie que tu peux traiter avec les événements qui viennent au niveau de ton corps. Alléluia. Tu peux le faire. C'est ton droit. Donc, quand des événements arrivent, ne commence pas par crier, « Oh Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Oh Dieu, non. » C'est comme si tu ne connaissais pas la volonté de Dieu. Non, ça c'est les païens, c'est les gens qui ne connaissent pas Dieu, qui vivent comme ça. Tu dois commencer par dire, Seigneur, je vais traiter avec ce mal dans mon corps. Parce que tu es là, tu habites en moi et j'ai la vie de Dieu en moi. Et tu vas commencer par prier. Et tu mets de l'ordre dans ton corps. Alléluia. Tu parles à ton corps. Comme Jésus parlait aux arbres, il parlait à tout. Tu dis, maladie, je t'ordonne, tu sors, tu dégages. Dégage de mon corps, quel que soit son nom. Ce que tu fais carrément, tu maudis la maladie. La Bible dit que Jésus s'est tenu devant le figuier, il a maudit le figuier. Et il est parti. Et le lendemain, les disciples sont arrivés, ils ont regardé le figuier, ils ont dit, « Ah Seigneur, n'est-ce pas le figuier que tu as maudit hier ?» Et le figuier était mort. Alléluia. Ne dis pas, ah non, moi je vais aller à l'hôpital. Ah oui, va à l'hôpital. Je ne suis pas contre ça. Vas-y, moi-même, des fois, je vais à l'hôpital. Mais avant d'y aller, j'ai déjà fait l'opération qui fonctionne. Alléluia. C'est ça, vivre, marcher par l'esprit. Parce qu'il y a des événements qui peuvent arriver, tu vas dire, ah bon, ça c'est correct, on gère ça avec l'hôpital. Mais je vous assure tout. Lorsque un être cher est en train d'être emporté par le cancer, c'est là que tu vas te réveiller la nuit. Une maladie, les médecins vont dire, bon, on peut rien faire pour vous. Hein. Voilà. C'est là qu'on dit, ah, oh Dieu, où es-tu? Oh Dieu, où es-tu? Mais n'attends pas ça. Alléluia. Tu dois apprendre à vivre la vie de l'esprit. Et cette vie-là, le Seigneur Jésus veut que tu la vives. Il veut que tu la vives. C'est quel est ce père-là qui reste là? Imaginez un père qui est premier ministre ou qui est noble, qui est notable, quelque part dans un pays. Et il a des enfants. Ses enfants s'identifient à lui. Et ses enfants quittent la vie qu'il leur a donnée. Ils vont maintenant choisir une vie de mendiant, de clochard, et ils vivent comme ils veulent. Il va dire, c'est quoi ça? Ça n'a pas de sens. Comme on dit ici au Québec, ça n'a pas de bon sens. Alléluia. Alléluia. Donc, la révélation que nous avons de Dieu, et cette révélation-là, c'est sa parole qui nous a laissée pour nous éduquer. Parce qu'il sait qu'on est sur la terre. Il nous a confié au Saint-Esprit. Et dès que nous découvrons ce qu'il a dit de nous, qu'est-ce qu'on fait? On dit, waouh, ça c'est ce que je suis. C'est ce que je dois vivre. Alléluia. Donc, quand Dieu est sur son trône, il n'est pas content de voir ses enfants fatigués par la maladie, fatigués par le chômage, fatigués par des soucis de ce monde. Non, non, non. Jésus n'est pas content de ça. Et même s'il y a des gens comme ça qui sont fatigués par des esprits, des démons, qui les fatiguent, Et la Bible dit, Jésus t'a donné l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Alléluia. Dieu ne t'a pas donné cette capacité-là pour venir faire ça à ta place. Gloire à Jésus. Dis avec moi, je prends mon rôle au sérieux. Gloire à Jésus. Alors, donc, dans ce sens, dans cette vie que Dieu nous a donnée, il y a un aspect. Dis avec moi, un aspect. Et cet aspect-là, c'est une vie d'excellence. Dis avec moi, une vie d'excellence. On retourne dans le livre de Proverbes, chapitre 30. Rapidement. Proverbes, chapitre 30, on va lire à partir du verset 24. Qu'est-ce que la Bible va nous dire? La Bible va dire ceci. Il y a sur la terre quatre petits animaux, petits, et cependant des plus sages. Les fourmis, peuple sans force, préparent en été leur nourriture. Les damans, peuple sans puissance, placent leur demeure dans les rochers. Les sauterelles n'ont point de roi, et elles sortent toutes par division. Le lézard saisit avec les mains, et il se trouve dans les palais des rois. Alléluia. Alors, cette année, nous sommes dans une saison où le Seigneur nous amène à conquérir, alléluia, conquérir des territoires, conquérir notre santé, conquérir notre activité professionnelle, conquérir beaucoup de choses. C'est simplement une vie de réussite. Dis avec moi, une vie de réussite. Mais pour réussir, pour ne pas échouer sur la terre, il faut opérer avec sagesse. Dis avec moi, j'opère avec sagesse. Et pour pouvoir conquérir en tant que roi sur la terre, il faut que Dieu t'équipe. Là, nous allons voir quatre armes des rois des temps de la fin. Dis avec moi, les rois des temps de la fin. On va ouvrir le livre de Zacharie, chapitre 10. Zacharie, chapitre 10. Et on va voir quelque chose d'assez important. Zacharie. Donc, Zacharie, c'est dans l'Ancien Testament. OK. Chapitre 10, qu'est-ce que la Bible va dire? Lisons à partir du verset 1. Demandez. Tu as ta Bible? Peut-être que c'est la première fois que tu ouvres Zacharie maintenant. Il faut ouvrir Zacharie là. On va ouvrir ça ensemble. Alléluia. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes, on passe du temps dans Psaume, on passe du temps dans, voilà, dans le Nouveau Testament. Zacharie, Ézéchiel, voilà, ça ne te dit rien. Alléluia. OK. Zacharie, chapitre 10, on va lire à partir du verset 1. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit ceci. Demandez à l'Éternel la pluie du printemps. L'Éternel produira des éclairs et il vous enverra une pluie abondante. Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. Car, bon, on va s'arrêter là. Alléluia. Donc, c'est un passage difficile à comprendre parce qu'il dit de demander à l'Éternel la pluie. C'est un prophète qui parle. Donc, quand il parle, quand un prophète parle, il faut faire attention. Quand il dit la pluie, ça peut signifier autre chose. Ça peut signifier la pluie, la vraie pluie. Ça dit tu as besoin de pluie. Alléluia. La météo t'annonce qu'il fait, il y a le soleil. Tu dis non, moi je veux la pluie. Tu peux demander à Dieu la pluie. Mais ce n'est pas de ça qu'il parle. Amen. Il dit demandez à l'Éternel la pluie du printemps. Et l'Éternel produira des éclairs et il vous enverra une abondante pluie. Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. Ici, il fait allusion à ce que Jacques va appeler dans le livre de Jacques. Il dit le moissonneur attend avec patience les pluies de l'arrière-saison. Dis avec moi les pluies de l'arrière-saison. Prophétiquement, les pluies de l'arrière-saison, c'est simplement ces pluies. Bon, dans le naturel, en Israël, il y a deux différentes catégories, différents temps où on attend la pluie. Donc, il y a d'abord une première partie où on reçoit les pluies qui permettent une récolte, mais on va appeler cette récolte la première récolte. Mais il y a des pluies qui vont venir vers la fin de l'année et qui donnent la grande récolte. Ça, c'est là où on récolte la plupart ou la majorité de tout ce qui va faire notre prospérité. Alléluia. Donc, c'est pour ça qu'il dit ici, il parle de la pluie du printemps. Et cette pluie-là, c'est la grande pluie. Donc, quand Jacques va parler du laboureur qui attend avec patience de labourer la dernière moisson avec les pluies de l'arrière-saison, il fait allusion à ce que Jésus va parler lorsqu'il va parler des ouvriers de différentes heures. La Bible dit qu'il y a un maître qui est sorti et qui, à plusieurs heures, il va recruter des ouvriers. Alléluia. Qui connaît la parabole du maître qui a recruté des ouvriers dans son champ? Est-ce que vous avez déjà lu ça une fois? Ok, d'accord. Donc, il y a des ouvriers de la première heure, des ouvriers de la seconde heure. Il a recruté des ouvriers jusqu'à des ouvriers de la onzième heure. Et ici, il fait allusion aux ouvriers des temps de la fin, les ouvriers de la dernière heure. Les ouvriers de la dernière heure, ce sont ceux-là qui vont en fait participer à révéler la gloire de Dieu dans les temps de la fin. Alléluia. Les derniers temps dans lesquels nous sommes. Or, la Bible va préciser que dans les derniers temps, dans les jours de la fin, il sera difficile de croire et de servir Jésus-Christ. Alléluia. Regardez très bien dans le monde. Regardez combien de personnes arrivent à croire en Jésus. Quand nous regardons déjà l'environnement dans lequel nous sommes, la séduction est tellement grande que pour pouvoir gagner une personne à Christ, faire comprendre à quelqu'un que Jésus est Seigneur, il faut beaucoup de puissance. Alléluia. Sans puissance, aujourd'hui, tu ne peux pas. C'est pour ça qu'il dit, demande à l'Éternel la pluie. La pluie, c'est le symbole de l'arrivée du Saint-Esprit. Alléluia. C'est la puissance de Dieu qui descend pour révéler la gloire de Dieu. C'est ça, il dit « demander la pluie » des temps de la fin. Donc, dans les temps de la fin, il y a une catégorie d'hommes et de femmes qui vont échapper à la séduction dans le monde. Tu ne seras pas de ceux-là qui vont être engloutis par la séduction du monde. Alléluia. Et dans les temps de la fin, la Bible dit dans le livre de Apocalypse que le diable, sachant qu'il a peu de temps, descend sur la terre avec grande rage. Il descend avec une haine. Et les gens sont combattus. Vous voyez les maladies qui sont dans le monde aujourd'hui. C'est des événements qu'on n'a jamais vus. Les pandémies, ce qu'on est en train de voir, est-ce qu'on avait vu ça avant? Non. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'épidémies. Il y a eu le choléra, il y a eu la peste qui a frappé l'Europe pendant des années, etc. Mais ce qu'on est en train de voir aujourd'hui avec la guerre qui bientôt va... Alléluia. Amen. Donc il y a des événements assez étranges. Parce que nous tendons vers la fin. Et il y a une lourdeur spirituelle sur l'Église aussi. Alléluia. Il y a une lourdeur spirituelle. Il y a beaucoup de personnes qui sont emportées, sans savoir qui sont emportées. Et c'est ça que nous allons voir tout à l'heure, lorsqu'on va parler de ces quatre petits animaux les plus sages. Il dit, il y en a quatre. Dieu est le Dieu qui a créé tous les animaux. Il a créé le crocodile. Il a créé tout le lion, tous les animaux. Mais il prend le temps, dans sa parole, il dit, de tous les animaux qui existent sur la terre, il y en a quatre petits, mais qui ont une grande sagesse. Alléluia. Et il va commencer par citer un certain homme. Et c'est à partir de la sagesse de ces quatre animaux que les rois des temps de la fin vont être révélés. Alléluia. Je déclare que tu rentres dans cette dimension au nom de Jésus. Et nous allons juste toucher un seul petit animal et on va voir quelle est la sagesse qui se cache derrière. Retournons dans le livre de Proverbes chapitre 30 et on va voir quelque chose. Au verset 25, la Bible dit ceci. Il y a sur la terre quatre petits animaux et cependant des plus sages, les fourmis, peuple sans force. Dis avec moi, peuple sans force. Voici ce qui les caractérise. Ils font quoi? Lisons ensemble. Ils préparent en été leur nourriture. Ils sont sages. Quelle sagesse! Donc, ça signifie que quand tu vois les fourmis, ils ont la capacité de discerner quoi? Les temps et les saisons. Ils ne font pas les choses au hasard. Ils ne vivent pas en dehors des saisons. Et il faut une grande sagesse pour discerner dans quelle saison, dans quel temps on est. Alléluia. Donc, vous imaginez quelqu'un, par exemple, lui, on est en été, il est là, tranquille, il ne fait rien. Et puis, l'hiver arrive. Il dit, bon, moi, je décide de sortir en hiver à moins 40 degrés avec mes habits d'été. Qu'est-ce qui va se passer? Le fait d'agir en dehors de la saison, ça peut être dangereux, voire mortel. Il y a des gens qui sont arrivés ici à Chicoutimi, ils étaient juste devant le taxi, ils disent, venez me chercher, je veux mourir, tellement la fraîcheur les a accueillis. Alléluia. Ils ont senti la fraîcheur du Saguenay. Ils ont dit, bon, je veux retourner dans mon pays, il fait chaud. Alléluia. Donc, la Bible dit que les fourmis ont cette capacité-là. Dis avec moi, Seigneur, accorde-moi de discerner le temps des choses. C'est la sagesse pour discerner les saisons. Et dans ta vie, il y a des saisons. Il y a des périodes que le Saint-Esprit doit te donner la capacité de discerner. Alléluia. Tu dois développer cette capacité-là. Quand on agit, on saute une saison, on perd beaucoup de choses. La Bible dit les jours dans lesquels nous sommes, ce sont des jours mauvais. Rachetez le temps. Alléluia. Rachetez le temps. Il y a des projets, si tu es chrétien, si tu appartiens à Christ, tu as besoin de cette sagesse-là. Tu as besoin de cette sagesse-là. Elle est tellement importante. Alléluia. Il dit, les fourmis prennent le temps. En été, elles vont préparer ce qu'il faut. Et en hiver, elles vont se reposer. Parce que dès que le temps de faire une activité, de poser une action passe, le cycle doit recommencer. Et c'est ça qui fait que beaucoup de personnes peuvent se retrouver à des endroits et dire, je ne comprends pas ma vie. Peut-être que tu as raté une saison. Alléluia. Et il te faut cette sagesse-là. Allons dans le livre de Psaume 90. Et on va comprendre une autre particularité de cette sagesse. Psaume chapitre 90, verset 12. Et on va voir Moïse, qui était un prophète, qui va revenir sur l'importance de cette sagesse. Et pendant que je parle, le Saint-Esprit t'accorde cette sagesse au nom de Jésus. Psaume 90, verset 12. Lisons. On va lire encore une fois de plus. Une troisième fois. Alléluia. Donc, je lis à partir du verset 1. Il dit, prière de Moïse, homme de Dieu. Et voici la prière qu'il adresse. Il veut prier. Et il prie. Voici ce qu'il demande. Il dit, Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Alléluia. Et je saute. On va lire même tout le psaume, on va comprendre. Il dit, avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, fils de l'homme, retournez. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Tu les emportes semblables à un songe, qui le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Donc, il est en train de nous parler de le caractère passager de tout homme sur la terre. Alléluia. Il y a des gens qui vont passer le temps. Voilà, ce qu'ils doivent faire, il y a de cela quelques semaines. Ils vont être en train de reporter ça à demain. Ils reportent ça à demain. Ils reportent ça à demain. Il dit, la vie que tu as, elle est comptée. C'est une période donnée. Ce n'est pas indéfini. C'est comme la fleur de l'herbe qui paraît un jour et qui, un autre jour, va passer. Et chaque minute, chaque seconde, chaque heure que Dieu te donne sur la terre, ce n'est pas pour que tu fasses ce que tu veux, comme tu veux. Non, non, non. Si tu fais ainsi, ce n'est pas Dieu qui va être le premier à être préjudicié. Non. C'est que c'est toi-même qui va manquer des événements, des choses de ta vie. Alléluia. Donc, Dieu veut nous enseigner à utiliser notre temps, à utiliser la ressource qu'il nous a donnée. C'est ça, Moïse, c'est de ça Moïse parle ici. Il dit, nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant nous, devant toi nos iniquités et la lumière de ta face de nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Et pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qui en tire n'est que peine. Qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux, selon la crainte qui t'est due. Maintenant, verset 12. Là, il prend le temps de contempler Dieu. Il prend le temps de lui donner la place qui lui est due. Il prend le temps de voir véritablement que Dieu est véritablement Dieu. Quel que soit ce qu'on va faire sur la terre, c'est lui qui est le Seigneur. Alléluia. Et maintenant, il fait la prière. Il dit, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous puissions appliquer nos cœurs à la sagesse. Alléluia. Là, il fait allusion à une personne qui est avisée. Tu es capable de dire, Seigneur, voici l'année 2022. Qu'est-ce que tu as choisi que je fasse en 2022? S'il te plaît, oriente-moi. Alléluia. Voici le mois de août qui arrive. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux que je fasse? Il y a beaucoup de personnes qui ne planifient pas leur journée, qui ne planifient pas leur semaine, qui ne planifient pas leur année, qui vivent juste au jour le jour. Si tu vis au jour le jour, tu ne pourras pas être sage. Alléluia. Tu mets des programmes. C'est ça, il dit, apprends-nous à compter nos jours. Il parle ici d'un dénombrement. Tu peux même avoir dans ton calendrier des événements qui vont se passer en 2023, en 2024. Des fois, même on peut avoir même un agenda jusqu'à 2030. Oui. Tu pries le Seigneur, tu peux lui dire. Il va te dire, voici, à telle période, travaille telle chose pour arriver à tel endroit, pour ma gloire. Alléluia. Et on va le voir avec le quatrième petit animal. La Bible dit le lézard qu'on saisit des mains et qui se trouve dans les palais des rois. Ça dit qui arrive à la royauté, qui arrive à manifester le plein potentiel que Dieu a mis en lui. Alléluia. C'est un procédé. Gloire à Jésus. Et le Seigneur va nous aider à développer cette grâce, cette capacité. Alors nous allons nous tenir debout et nous allons prier. Tu vas élever ta voix et tu vas parler au Seigneur. Tu vas lui dire, Père Céleste, accorde-moi la grâce de saisir cette sagesse, la sagesse, oui, de la fourmi. Accorde-moi le discernement des saisons, accorde-moi le discernement des temps. Si je suis sur la terre, c'est parce que tu as encore des projets, des choses que tu veux accomplir au travers de moi. Alors je veux te révérer comme Dieu. Je ne veux pas vivre comme si j'étais maître de mon souffle, comme Moïse pouvait dire, « Oh Dieu, tu es notre Dieu. Oui, tu as été pour nous un refuge. C'est toi qui es notre refuge, c'est toi qui nous gardes. Et en ce moment même, nous voulons, Seigneur, te reconnaître. Oui, reconnaître ta miséricorde, reconnaître ta grâce, reconnaître tes bontés. Chaque matin, Seigneur, tu nous renouvelles le souffle de vie. Enseigne-nous, oh Dieu, à pouvoir discerner les saisons. Père, pendant que, Seigneur, la fin des temps est là et que le Christ, le Seigneur, est à la porte, il revient chercher son Église. Accorde-nous, Seigneur, de donner la priorité aux choses, oui, que tu as dites dans ta parole. Tu as dit de veiller, de prier, afin que nul ne tombe, Seigneur, oui, Seigneur, dans l'assoupissement. Donne-nous, Seigneur, à ce moment précis, de pouvoir aller dans ta présence, aller à ta rencontre, aller te chercher, afin que tu nous désaltères de ton eau. Que tout ce qui est dans nos vies, Père, qui n'est pas, qui ne te glorifie pas, que Seigneur, tu nous donnes, Seigneur, que ces choses partent. Nous voulons, Père, oui, avoir cette grâce de bien compter nos jours. Élève ta voix et parle au Seigneur. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te bénissons, Seigneur, pour ta sainte présence, pour ta gloire, pour ta présence dans nos vies. Et nous savons, Seigneur, que tout ce que tu fais est merveilleux. Quand tu nous aimes et que tu es patient envers nous, nous savons que nous ne pouvons rien sans toi. Oui, nous sommes, Seigneur, à tes pieds pour te découvrir. Éclaire nos ténèbres, Père. Accorde-nous la grâce de te connaître, de nous humilier dans ta présence et de reconnaître que tu es Seigneur et que tu es Dieu, ô Père céleste. Oui, comme la fleur de l'herbe qui paraît un jour et qui quelques jours plus tard passe, ne nous donne pas, Seigneur, de nous enorgueillir sur nos vies, Seigneur, et d'aimer le monde et les choses qui sont dans le monde plus que toi, Père. Accorde-nous, Seigneur, le discernement des temps. Accorde-nous de discerner, Seigneur, la saison dans laquelle nous sommes. La saison globale, mais aussi les saisons de nos vies. Donne-nous, Seigneur, de ne pas passer nos temps à des futilités. Accorde-nous de nous attirer, d'être attirés vers toi, attirés vers l'adoration, attirés vers la louange, attirés vers la consécration, attirés vers le service de notre Seigneur, attirés vers l'évangélisation. Attirer, Seigneur, vers les prières sans cesse. Attirer, Seigneur, vers les choses qui te tiennent à cœur. Oui, Seigneur, nous sommes à tes pieds. Oui, nous sommes à tes pieds. Nous savons que tu nous transformes et que tu nous restaures. Merci, Père, pour ta grâce. Merci, Père, pour ta sainte présence. Merci, Père, pour ta gloire. À toi seul la louange. À toi seul la louange. À toi seul l'honneur, à toi seul l'exaltation, au siècle des siècles. Et nous voulons te dire merci, Saint-Esprit, pour ta présence dans ce lieu et pour le bien que tu nous fais chaque jour. Que ton nom soit magnifié, que ton nom soit célébré. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous allons acclamer le Seigneur pour ses bienfaits. Alléluia. Amen.